Journal de bord du Solario, jour 34. Le récit de Yak. Nous avons dormi sur la plage. Hors de question de quitter l'île sans avoir parlé à Yak. Et impossible pour lui de la quitter sans nous marcher dessus. Aucun des sept prémas n'était réapparu pendant la nuit. Eux aussi, apparemment, dormaient dans la maison. Par contre, nous nous étions aperçus que l'île de Yak, comme nous l'appelions, n'était entourée d'eau qu'à marée haute. À marée basse, elle était reliée à la falaise par un cordon de sable. Dès que le soleil passa au-dessus des falaises, une odeur de café nous chatouilla les narines. Nous étions à peine réveillés, à l'exception de Novak dont c'était le tour de garde, quand nous avons vu trois prémas apporter une table. Un quatrième portait une nappe dont il recouvrit la table, alors qu'un cinquième la calait avec des galets. Suivirent Sam et Dim, le serveur de bouteilles de vodka, ramenant tasses, café, jus de fruits, beurre, pain grillé, alors que le premier des prémas revenait déjà avec une chaise, le deuxième avec un coussin rouge, le troisième avec un grand parasol que le quatrième et le cinquième plantèrent. Le manège dura un certain temps avant que Yak apparaisse enfin. Visiblement, il s'était lavé. Je supposais que les prémas devaient aussi sprinter avec des bassines pour lui apporter l'eau courante. Il avait troqué ses habits sales contre un grand peignoir de laine angora. Un préma courait autour de lui pour l'asperger avec un petit vaporisateur de parfum. Yak l'écarta d'un geste du bras et nous regarda. « Vous êtes encore là ?» J'avais eu toute la nuit pour réfléchir et comprendre que c'était à moi de parler pour le groupe. Après tout, le grand cerf ne m'avait-il pas offert le titre d'ambassadeur? Oui, et nous resterons le temps qu'il faudra. Nous avons des questions à vous poser. Yak haussa les épaules et s'installa sur la chaise, devant sa table de petit déjeuner. Deux prémas se précipitèrent pour lui beurrer ses tartines. Vous voulez du café? Fit Yak. Nous avons tous les cinq échangé un regard d'envie. Nous n'en avions pas bu depuis des semaines. Nous avons hoché la tête, ravis que Yak ait dessoulé et se réveille dans de meilleures dispositions. « Eh bien !» continua Yak. « J'espère que vous aimez la marche à pied. Le premier bar ouvert est à plus de 10 kilomètres. » Il explosa d'un grand rire gras tout en vidant la tasse que Sam venait de lui servir, puis continua de dévorer son repas comme s'il était seul sur la plage. Je décidai d'attendre poliment qu'il ait fini pour le questionner à nouveau. Quand, une heure plus tard, la table fut entièrement débarrassée, la nappe pliée et chaque miette ramassée, j'élevai la voix pour répéter « Nous ne partirons pas, nous avons des questions à vous poser !» Quatre prémas vinrent apporter un rocking chair en osier. Yak s'y installa en poussant un long soupir. « Et après, si je vous raconte ma vie, savez-vous ce qui va se passer? Vous ne pourrez plus jamais partir d'ici !» J'hésitais. Ne plus jamais partir d'ici. Je n'ignorais pas que nous n'étions que 12 à bord du Solario entourés de plus d'une centaine de prémas qui tous semblaient obéir à Yak. On prend le risque, décida pourtant Alix à côté de moi. Allez-y, racontez-nous votre vie. Yak ricana. Ça va être un peu long. Il se tourna vers le préma le plus proche et cria quelques mots incompréhensibles. La minute suivante, les sept revinrent avec une autre table, 5 chaises, 5 tasses et du café.
C'est bon, cette fois dégagez les toutous. Esteno, va!
Les prémas disparurent aussi vite qu'ils étaient apparus. Nous nous installâmes sur les chaises, chacun une tasse fumante à la main. Une nouvelle fois, je fus le premier à parler. Merci.
Garde tes merci, grogna Yak. Tu peux encore foutre le camp. Parce que dès que vous saurez qui je suis, plus personne ne sortira d'ici, ni en bateau, ni en escaladant la falaise.
Bill et Novak burent leur café en crispant leurs doigts sur la porcelaine brûlante.
« Pas grave, » osa Agnel. « On s'envolera ?»«
Ha 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 ! C'est vrai que t'as une petite gueule de goéland, mon gars. Alors comme ça, vous voulez savoir comment je m'y suis pris pour survivre pendant que toute l'humanité disparaissait ?» Toutes vos gentilles mamans et tous vos braves papas, phew, ciao! Plus que des milliers de petits orphelins. tous ceux qui ont respiré sur cette terre étaient condamnés, je peux vous l'assurer. Alors vous vous dites que j'ai peut-être des pouvoirs surnaturels, que je n'ai pas de poumons ou des branchies de poisson. Je vais vous décevoir, je respire comme tout le monde. J'ai juste eu la chance de ne pas être sur la terre à ce moment-là. »
Daniel réagit aussitôt. « Comment ça, pas sur la terre ?»«
Vous m'avez l'air plutôt malin et dégourdi, alors vous auriez pu penser à un truc. Ce foutu nuage invisible s'est diffusé dans l'atmosphère. C'est ce qui a liquidé l'humanité entière, à l'exception des 6 personnes qui se trouvaient au-dessus de tout ça. »
« L'ISS, » murmura soudain Alix. « Évidemment. »«
L'IS quoi ?» s'étonna Bill.
« L'ISS, » expliqua Alix. « D'après mes souvenirs de cours d'astronomie, l'ISS était la station spatiale internationale qui tournait en orbite autour de la Terre, habitée en permanence par 6 astronautes. »
« Exact, ma petite chérie. On était 6, restés coincés dans les étoiles. Quand les êtres humains ont commencé à tomber comme des mouches, quelques survivants, à Baïkonour, en Russie, ont essayé de nous faire redescendre. Ils nous ont envoyé un taxi en urgence, un vaisseau Soyouz. On a dû piloter le retour en manuel, sans aide informatique de la base, ou presque. Ça va vous paraître du chinois ou du russe, mais notre angle était mauvais. Le freinage trop fort, l'atmosphère n'a pas assez joué son rôle de filet de ralentissement. Enfin, bref, les parachutes n'ont pas suffi, ni les rétrofusées, et la capsule a plongé dans l'Atlantique à plus de 200 km/h. J'ai été le seul à survivre à l'amérissage. Coup de bol, enfin si l'on peut dire. J'aurais sans doute mieux fait d'y rester, comme mes copains russes, américains et chinois. »
Yak marqua une pause. Il avait l'air plutôt content au final de nous déballer son histoire. Était-ce la première fois qu'il la racontait ? Aucun préma ne semblait comprendre ce qu'il disait. « Et après l'amérissage ?» demanda Agnel, fasciné.
« Après, j'ai fait comme tout le monde. J'ai foncé voir ma famille. Elle habitait ici, au bord de l'estuaire. Je me disais que beaucoup d'adultes avaient dû être placés sous respiration artificielle, dans les hôpitaux, pendant le passage du nuage. Qu'il y aurait donc beaucoup de survivants, comme moi. Mais je négligeais un élément clé. La respiration cutanée. »
« La quoi ?» ne put s'empêcher de demander Novak.
« Tiens, » fit Yak avec mépris, « le Bang parle lui aussi. La respiration cutanée, petit, c'est la respiration par la peau. Eh oui, notre peau respire. Et le gaz était tout aussi mortel par les oreilles ou les doigts de pied, y compris pour ceux qui portaient un masque à oxygène. J'ai fini par comprendre que pour ne pas être condamné par cette saloperie, il fallait être resté au chaud dans le ventre de sa mère ou avoir plané au-dessus de l'atmosphère. Et donc, qu'en conséquence, j'étais le seul adulte survivant sur Terre. »
Il s'arrêta, comme s'il hésitait à en dire davantage. La mer, dont le ronflement nous avait accompagnés toute la nuit, commençait à s'éloigner. Alix souffla par réflexe sur son café déjà froid. « Et ensuite, » fit-elle, « comment vous êtes-vous débrouillé avec les prémas ?»«
Vous aussi, » sourit Yak, « vous les appelez comme ça. Moi, c'est con, m'appelle Yak. Mon vrai nom, c'est Jacques, Jacques Isard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur eux, ma chérie ? Vous êtes des malins. Vous avez visité la clinique il y a un an, vous avez volé les caméras de surveillance, vous avez sûrement tout compris. Je suis allé à la clinique pour me soigner. La descente de l'ISS m'avait broyé 3 côtes et une tête de fémur. Après le passage du nuage, c'était la panique. Toutes les mères voulaient accoucher le plus vite possible, même à 6 mois, 5 mois, n'importe quoi. Il naissait plusieurs dizaines de bébés par semaine. La plupart ne survivaient pas, et les médecins et sages-femmes, qui faisaient accoucher à la chaîne, tombaient les uns après les autres. Les parents ne survivaient au mieux que quelques mois, parfois un an. Au bout de 18 mois, je me suis retrouvé tout seul, avec des centaines de gamins sur les bras. Je savais vaguement que quelques adultes survivaient ailleurs, mais ils étaient loin, et en sursis, eux aussi. Enfin bref, je devais me débrouiller tout seul avec ces gosses, moi qui avais toujours refusé d'en avoir. Et pourtant, ça n'a pas manqué de nanas qui ont cherché à m'en faire un dans le monde d'avant. »
Bill et Novak semblaient totalement décontenancés par le discours de Yak.
Moi aussi, je dois l'avouer. Nous avions
tellement idéalisé les adultes depuis que nous étions nés. Pour nous, ils étaient forcément raisonnables, rassurants, sévères mais justes.
Vous vous êtes bien débrouillé, au final, intervint Alix avec une conviction un peu forcée. Personne d'autre que vous ne s'est occupé d'eux, et ils sont là, vivants.
Jacques, s'autorisa un sourire. Je crus un instant qu'il allait laisser se fissurer son armure de survivant cynique, mais il se reprit aussitôt.
C'est gentil, ma petite, mais il aurait mieux valu pour eux qu'une vraie nounou survive. Sauf que, va trouver une nounou qui tourne en orbite autour de la Terre, hein? Dommage pour l'humanité. Celui qui a gagné au loto était un type égoïste, détestant les bébés et buvant un peu trop une fois de retour sur Terre.
Ça ne s'est pas arrangé côté boisson, dis-je en posant mon café.
Yak me regarda durement. J'avais cru que jouer sur le terrain de la provocation était une bonne idée. Raté. Visiblement, l'astronaute tenait à conserver le monopole du désenchantement.
Et toi, t'es qui, gamin, pour me juger? J'ai perdu tous ceux que j'aimais après le passage de ce foutu nuage. Tous. En quelques mois. Ma famille, mes copains. Ça fait plus de 13 ans que je n'ai parlé à personne d'autre qu'à des gamins qui connaissent moins de mots que des chimpanzés. J'en ai enterré des dizaines. Et j'en ai soigné davantage encore. Alors t'es qui pour me faire la morale?
Tant pis, même si Alix et Bill me regardaient étrangement, je sentais que je devais continuer à lui tenir tête pour qu'il s'aventure encore plus loin sur le chemin des confidences.
C'est certain que vous prenez soin d'eux. C'est cool, non? D'avoir autant d'esclaves. Est-ce que vous en avez un aussi pour vous brosser les dents et un autre pour vous gratter le nez?
Yak me défia du regard. La marée était encore descendue, découvrant petit à petit le gué de sable et de rochers entre l'île et la falaise.
T'as du cran, petit. Écoute-moi, je vais t'expliquer. La plupart de ces prémas ne comprennent pas grand-chose. J'ignore si c'est parce que je n'aurai jamais rien appris ou si c'est leur cerveau qui n'est pas assez formé. Et à vrai dire, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent et moi aussi. J'ai simplement choisi une petite garde rapprochée parmi les gamins qui, vers 3 ou 4 ans, me semblaient les plus débrouillards. Tu vois, ceux qui avaient un petit truc en plus dans le regard. J'étais comme un Robinson sur mon île. Alors, le premier, je l'ai appelé vendredi. Le deuxième, samedi. Ce crétin de Sam que vous avez piégé et qui vous a amené ici. Puis Dim, mon sommelier. Puis lundi et compagnie. Ils ont droit à quelques privilèges d'ailleurs, je les appelle comme ça, mes privilégiés, et en échange, ils me sont dévoués, ils me protègent et commandent les autres à ma place. Ce sont les seuls, parmi tous ces prémats, qui possèdent un prénom. À part mon unique et fidèle compagnon, bien entendu.
Crobleu. Yak leva soudain les yeux. Son regard passa par-dessus nos épaules et instinctivement nous nous retournâmes. Un nouveau préma venait de surgir. Il marchait sur le banc de sable pour rejoindre l'île et ne ressemblait en rien aux autres prémas. Il était presque aussi grand et aussi musclé qu'Akane. Son dos, ses omoplates, son torse étaient intégralement tatoués d'effrayants motifs rappelant des araignées et des serpents qui se confondaient avec ses longs cheveux tombant sur ses épaules. Il portait à bout de bras un animal mort ressemblant à un faon ou un jeune cerf.
« Pose ça dans la cuisine, » ordonna Yak. « Les privilégiés vont le découper. »
Le préma tatoué continua sa route sans prendre la peine de nous regarder.
« Celui-là a l'air de comprendre, » ironisa Agnel.
« Oui, » admit Yak. « Me demandez pas pourquoi, parmi tous les prémas, celui-ci a grandi normalement. Ça m'a donné envie de lui apprendre à parler et à écrire. »
Il se tourna vers le tatoué et cria
« Tu ne dis pas bonjour à nos invités !»
Le préma géant se retourna vers nous, portant toujours son cadavre de faon. J'ignorais s'il avait essayé de sourire. Aujourd'hui encore, je ne le crois pas. Mais en tous les cas, il avait suffisamment ouvert la bouche pour qu'on voie toutes ses dents. Elles étaient bleues. D'un bleu profond, presque autant que les yeux de son maître.
« Je vous présente Crobleu. J'ai failli le perdre quand il avait 8 ans. Un loup solitaire qu'il a tout de même fini par égorger, mais le fauve a eu le temps de lui arracher la moitié du visage et de la mâchoire. Je l'ai recousu, du mieux que j'ai pu. Et puisque je n'avais pas de dents en or sous la main, j'ai taillé les saphirs du collier d'une maman enterrée à proximité et qui n'en aurait plus besoin. Ce monstre aux dents bleues me doit une vie.
Gros-Bleu était resté bloqué devant la porte d'entrée.
« Eh bien, dégage maintenant !» lui lança Yak. « Et vire-moi ton cadavre, tu vois pas qu'il pisse le sang ?»
Le primat tatoué disparut aussitôt.
« Vous voyez ?» ajouta Yak. « Gros-Bleu est aussi grand que les autres primats sont petits, et aussi méchant que tous les autres sont gentils. Quand j'aurai décidé de tous vous tuer, c'est à lui que je demanderai. »
Et il explosa dans un nouvel éclat de rire. Dès que le soleil se cacha derrière les premiers nuages au milieu de la matinée, Jacques rentra dans sa maison et ne réapparut pas de la journée. Nous l'attendions sur la plage, bien décidé à ne pas bouger. Ni les sept privilégiés, ni Gros-Bleu ne ressortirent davantage. Après quelques heures, nous avons décidé d'envoyer Novak prévenir Braza, Leonarda et les autres, restés près du solario et de la clinique des immortels. Il lui suffisait de remonter l'escalier sous la falaise et de revenir avec de quoi manger. Nous n'avions rien avalé depuis la veille à part une tasse de café. La marée étant au plus bas, Novak pouvait rejoindre à pied l'entrée du tunnel. Nous l'avons observé disparaître sous la falaise et revenir seulement quelques minutes plus tard. Le souterrain avait été bouché. Impossible de fuir, que ce soit par la terre ou par la mer, tant que la marée ne serait pas remontée. Notre barque se briserait immédiatement sur les rochers. Il ne nous restait plus qu'à attendre et réfléchir. Jacques était-il sérieux quand il affirmait qu'il ne pourrait plus jamais nous laisser partir? Nous étions tous d'accord, ses humeurs dépendaient de la quantité d'alcool qui coulait dans son sang. Il devenait incontrôlable quand il avait bu, mais semblait tenir des propos à peu près cohérents le reste du temps. Cohérent, mais pas plus conciliant. Alix possédait un avis tranché sur la question. Yak avait beau se plaindre, jouer au pauvre petit dernier adulte vivant sur Terre et accablé de solitude, en réalité, la situation l'arrangeait. Il s'était construit un palais avec une armée d'esclaves à son service dont il s'occupait désormais à peine. Sa clique de privilégiés et son souffre-douleur, ce Gros-Bleu, devait se charger de faire régner l'ordre et la terreur à sa place. Yak n'était sûrement pas prêt à renoncer à ses petits déjeuners sur la plage et à sa ration de vodka dès qu'il levait le petit doigt. Ça expliquait pourquoi il s'était caché quand l'expédition de l'Albatros avait découvert la clinique des immortels. Il avait compris que si on le trouvait, c'était fini la vie de Pacha. On lui demanderait des comptes et il devrait assumer ses responsabilités, y compris en ce qui concerne l'éducation de ses enfants prématurés, ajouta Alix.
C'est pas eux le problème, répliqua Bill. Un troupeau de poneys est plus intelligent que ces gamins nains. Le problème, c'est qu'Yak ne nous a pas tout dit.
Je devais reconnaître que sur ce dernier point, Bill avait raison. Yak, en tant que dernier adulte survivant, connaissait forcément beaucoup plus d'éléments que nous sur le passage du nuage. Il avait sans doute entendu parler des autres adultes qui avaient survécu durant plusieurs années. Savait-il ce que signifiait ce mot, Néo, et où se situait ce fameux laboratoire, Utopie, dans lequel Marie-Lune et Pierre Sol travaillaient? Le soir, Yak n'étant toujours pas ressorti, nous avons décidé à l'unanimité moins une voix de passer une nouvelle nuit sur l'île. Seul Agnel n'était pas d'accord. Il prétendait que nous devions profiter de la marée haute pour monter dans la barque et nous enfuir. Il avait un mauvais pressentiment. Il serait toujours temps, selon lui, de revenir.
Sauf, avions-nous tous objecté, si Yak en profitait pour se sauver. Nous tenions une occasion unique d'en savoir plus sur notre passé. Nous ne pouvions pas la gâcher.